les jardinières.
Salut à tous et bienvenue dans Les Jardinières, une émission qui reste sous le signe de l'été. Et ce matin, je suis accompagnée d'un petit rayon de soleil.
Oh, Mylène, bonjour.
Bonjour Stéphanie, le week-end commence et on attend ça depuis une semaine. On a enfin le temps de se consacrer au jardinage. Ce matin, c'est le patron de l'entreprise Ribaud Paysage à Queuves qui nous accompagne. Jean-Pierre Ribaud, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Nous sommes le 15 septembre 2018. Alors on pensait que l'été allait gentiment s'éclipser pour nous laisser au milieu des feuilles mortes. Eh bien non, de beaux jours nous attendent encore et c'est pas le moment de laisser dépérir vos espaces verts. Quelles fleurs planter en cette saison? Comment adapter nos jardins après les fortes chaleurs? Et puis que peut-on encore récolter par exemple en ce moment? On fait le plein de bons conseils et on répond évidemment à toutes vos questions avec Jean-Pierre Ribaud.
Des questions que vous pouvez lui poser en direct. Vous avez le choix entre plusieurs moyens. Tout d'abord, il y a notre standard téléphonique au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Jean-Pierre Ribaud vous répondra personnellement. Vous pouvez aussi opter pour le SMS en envoyant le mot jardin, un espace, suivi de votre question, le tout au 939. Et il existe également un formulaire que vous trouverez sur nos sites sous l'onglet émission questions aux jardinières. Et si vous choisissez l'option SMS ou formulaire, n'hésitez pas à bien détailler votre problème afin que Jean-Pierre puisse développer sa réponse au maximum.
Eh bien, tout est dit, les jardinières, c'est parti.
7h, 8h, les jardinières.
Première question pour vous, Jean-Pierre. Comment gérer les feuilles du muguet? C'était une question qu'on avait reçue en fin d'émission la semaine dernière. On n'avait pas eu le temps de la traiter. Donc la voici. Et donc Martine a un muguet en grand nombre dans un coin de son jardin, donc des feuilles de muguet. Elle ne sait jamais si elle peut les enlever. Et comment le faire pour garantir une floraison l'année suivante?
Oui, alors effectivement, le muguet est une plante vivace qui démarre très tôt au printemps avec un super feuillage. On a les fleurs qui tombent sur le début mai. À cette période, c'est vrai que le muguet, il a plus tellement de façons. Le feuillage, il est devenu terne, il est devenu brun, il se dessèche dans des couleurs automnales plutôt. Alors le mieux, quand il a commencé de changer de couleur, il y a des fois juste à l'arrachage, il vient facilement, on est quitte de blesser les rhizomes parce que quand elle est mûre, cette feuille, elle vient facilement. Ça nettoie super bien la plate-bande et puis comme ça garantit une reprise optimum pour l'année d'après.
On va parler potager maintenant. J'ai fait un potager cet été et là, je me prépare à tout enlever pour cet hiver. La terre sera donc à nu. Comment faire pour hiverner mon potager? C'est une question de Ginette de Porrentruy.
Eh bien, bonjour Ginette. Pour le passage à l'automne de ce potager, une fois qu'il sera propre, il y a plusieurs manières. Soit vous lui mettez un bon mulchi de paille ou de fumier par-dessus pour reposer cette terre. Soit vous le bêchez avec un labour grossier pour pouvoir avoir une structure affinée au printemps, durant l'hiver. Donc cette terre va avec le gel, le dégel et l'humidité se défaire, se décomposer. Et puis sinon, si vous êtes embêté de temps en temps par de la mauvaise herbe, vous pourriez aussi bâcher cette surface avec une bâche noire, pas forcément un plastique, mais une bâche noire qui permet quand même à l'humidité de passer. Et puis le fait d'ombrer complètement cette surface, vous aurez une lutte efficace contre les mauvaises herbes. Je ne veux pas dire que vous n'en aurez plus l'année prochaine, évidemment, mais vous aurez une super lutte préventive.
Et puis l'année prochaine, justement, quand la période des potagers va recommencer, simplement on bêche un peu et le potager devrait repartir sans autre.
Alors si elle aura organisé un bêchage sur cet automne, effectivement qu'au printemps, ce sera plus à réaliser. Avec un coup de larron ou de motoculteur ou quelque chose comme ça, il n'y aura plus de soucis pour affiner cette terre. Si elle la bâche avec une bâche noire pour étouffer ses mauvaises herbes et puis faire cette lutte mécanique, comme ça qu'on peut appeler, eh bien au printemps, il faudra quand même soit labourer, soit y passer un coup de motoculteur pour affiner les terres.
Et puis est-ce qu'on peut aussi planter d'autres choses, comme je pense à des plantes à oignons, comme les fleurs ou les oignons, maintenant, pour l'année prochaine?
Alors oui, effectivement, il y a des plantations qui peuvent encore s'organiser maintenant. Par exemple, il y a le semis de la mage, de la doucette, ou la plantation, si elle trouve dans le commerce des mini-mottes de doucette, c'est super efficace et puis ça produit
c'est
super
bon.
Bien. En plus, elle est excellente comme salade. Si, par contre, elle décide de planter des mini-mottes de doucette, il faut plutôt la planter un peu sur une butte. Comme ça évite, durant les puits, de gorger de terre le pied de la doucette. Elle est nettement plus facile à nettoyer une fois sa récolte. Donc la buter un petit peu, donc planter était sur une butte, si vous voulez. Et puis sinon, effectivement, il y a la chicorée, il y a la peinture, il y a encore passablement de salade qui peut se planter maintenant pour avoir une récolte sur cet automne. Après, effectivement, les plantes bisannuelles, les oignons, les petits oignons, ces choses-là, ça peut se mettre en place, bien sûr.
On va parler basilic, Jean-Pierre. On a Sabine de Neuchâtel qui s'inquiète avant l'hiver. Elle ne sait pas comment le tailler. Elle nous précise que son basilic est situé à l'extérieur.
Oh, alors c'est très facile à répondre parce que le basilic, c'est une plante qui est uniquement annuelle. Ça veut dire qu'il faut systématiquement l'acheter au printemps, récolter les feuilles et les tiges selon nécessité durant l'été. Et puis là, sur cet automne, de toute façon, son pied de basilic, il va périr parce que c'est une plante qui ne passe pas l'hiver.
Ah d'accord, donc de toute façon, c'est radical, il n'y a pas d'espoir, ça ne revient pas.
Aucun espoir, non. Elle peut vraiment récolter un maximum maintenant parce que c'est vrai qu'à l'automne, les feuilles, elles vont commencer de se ternir. Donc ramasser un maximum maintenant, quitte à les sécher ou je ne sais pas, en profiter vraiment, quoi. Parce que d'ici un mois, il n'y aura plus de récolte possible.
Et puis qu'est-ce qu'il en est des autres herbes aromatiques? Je pense à la ciboulette par exemple, au thym, à la menthe. Est-ce que eux aussi, elles ont des dates limites, on va dire?
Non, alors je dirais dans les plantes aromatiques, il y a surtout le persil qui est lui bisannuel. Ça veut dire que vous le semez la première année. Vous pouvez faire une super récolte cette année. Si vous le laissez passer l'hiver, l'année d'après, il va venir en graines et puis vous ne pourrez pas récolter de persil. Donc c'est pas une plante qu'on peut garder très longtemps dans le potager. Sinon, au niveau des autres plantes aromatiques, donc ciboulette, le thym, la menthe, même la menthe qui est très envahissante ou à laquelle il faut faire un peu prendre des mesures de sécurité contre la plante, parce que sinon elle envahit complètement votre potager. C'est toutes des plantes qui sont vivaces. Ça veut dire vous les taillez à l'automne, vous les nettoyez propres pour qu'il y ait un super démarrage au printemps.
On va rester dans le potager, mais on va parler chou-fleur. Début juin, j'ai planté des chou-fleurs. Les feuilles sont bien développées, mais le cœur est inexistant. Je ne sais pas ce que j'ai pu faire de faux. Et si je peux rattraper le coup, pouvez-vous m'aider? C'est Linda de Beuvais qui vous pose la question, Jean-Pierre.
Oui, bonjour madame. Certainement qu'ils ont été plantés un peu tard, je pense. Et puis au niveau développement, il aurait fallu les pousser un peu davantage. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne se mettent pas à fleur. Peut-être ils vont encore développer une petite fleur sur cet automne parce que le temps est propice à ça. Mais je pense que c'est une plantation un peu tardive que vous avez réalisée, j'imagine.
Et puis justement, moi j'avais une petite question par rapport à tout ce qui était choux, comme les choux de Bruxelles par exemple, c'est un peu le même principe. Ouais. Ça se récolte un peu de la même manière que les choux-fleurs.
Alors le chou de Bruxelles, c'est quelque chose qu'on a déjà mis en place dans les carreaux, et puis c'est quelque chose qui va se récolter durant le mois de décembre, janvier, hein, y a pas de souci. Ça se cueille, c'est quelque chose en hauteur, ça passe l'hiver, ça supporte le gel. Y a des fois, on a même des récoltes qui peuvent s'étioler, ça dépend de la quantité de plantation que vous aurez réalisée. Mais en janvier-février, vous pouvez encore cueillir des choux de Bruxelles. On dit, ils sont plus tendres quand ils ont subi le gel. Voilà.
8 heures, les jardinières.
Et on continue nos questions jardinage. Nous avons reçu un SMS, on vous rappelle comment faire. Vous envoyez jardin, un espace, votre question. Vous envoyez tout ça au 939 comme l'a fait Nelly de Queuve. Elle nous pose une question, gazon. Mon gazon a souffert de la chaleur, c'est pas le seul. Quand est-ce que je peux le ressemer, les taches brunes, et comment faire? Merci, elle nous souhaite une bonne journée également.
Bonjour, coucou Nelly.
Oui,
ce vilain gazon là, c'est vrai, on le voit, il est toujours sec sur ce milieu de pelouse. En fait, c'est la très bonne période maintenant pour faire un sursemis. Ce qu'il faudrait faire, c'est le tondre très bas, pratiquer un sursemis assez dense, et puis après passer une machine, le principe d'une scarification, pour mélanger cette semence avec le mulchi qui s'est décomposé, qui est présent sur le sol. Et puis évidemment, après, il faut surtout pas ramasser ce qui aura été gratté par la machine, parce que c'est ça qui va faire ombrage à la semence qui aurait été mise en place. Il faut surtout accélérer au niveau de l'arrosage avec une bonne densité d'humidité sur les 10 premiers jours pour garantir une super levée. Et puis pas oublier de lui mettre de l'engrais de pressemis pour faciliter son enracinement et puis un développement adéquat pour passer l'hiver. C'est vrai que cette année, il y a énormément de casses au niveau des pelouses. On peut aussi se poser la question sur les surfaces où, comme justement chez Nelly Akub, cette pelouse, elle a complètement dépéri, de choisir peut-être une semence qui est plus adaptée à des surfaces arides, sèches. En tout cas, pas mettre un gazon standard, familial. On trouve dans les grandes surfaces, on trouve dans les commerces ou chez les fournisseurs des semences qui sont vraiment adaptées à des endroits plus arides. Et puis, faut s'imaginer que si c'est chaque année qu'on va recommencer ce genre d'opération parce que les étés viennent de plus en plus secs, eh bien, il est plus judicieux de mettre justement ces semences adaptées aux très secs. Voilà.
Merci Jean-Pierre. On a reçu une autre question par SMS. Cette personne nous demande à quelle période il faut planter les oignons de tulipes et jonquilles.
Oui, alors les oignons de tulipe jonquille vont se planter d'ici un mois, je pense. Dès que vous les trouverez dans les grandes surfaces, ce sera la super période pour la mise en place dans le terrain. Il ne faut juste pas oublier donc, qu'on les met en deux et trois fois la grandeur du bulbe en profondeur. On met un substrat affiné en dessous pour que les racines au démarrage puissent se mettre en place facilement dans une terre qui a été un peu améliorée. Et puis, pas trop compacter le dessus, mettre un peu d'humidité pour qu'il démarre rapidement. Puis tout est joué.
Et si on a justement des oignons de jonquille, de tulipes, est-ce qu'on peut les mettre aussi dans le gazon? Ou alors, c'est mieux de mettre dans une plate-bande?
Non, alors ça peut se mettre dans le gazon. Il ne faudra juste pas oublier au printemps d'éviter les tontes sur ces éléments-là.
Oui, ben voilà.
Et puis, et puis, ce qui est peut-être un peu plus embêtant après, c'est que les feuilles, c'est comme le muguet tout à l'heure. Il faut absolument attendre avant de les enlever qu'elles se soient changées de couleur, qu'elles ne soient plus vertes. Parce que tout pendant que le limbe de la feuille est vert, eh bien, c'est qu'il y a de la transformation nutritionnelle au niveau du feuillage pour alimenter les rhizomes ou, comme le muguet, ben les racines traçantes. Donc, si on enlève trop vite ces feuilles, vous affaiblissez vos plantes et puis ça ternit justement les mises en fleurs des années d'après. Alors voilà.
Et puis, ces oignons, les plantes une fois et ça revient chaque année, c'est vivace.
Ah, c'est vivace, mais c'est quelque chose qui dédevient dans le temps. Ça veut dire que les producteurs de bulbes, ils arrivent à des croisements pour arriver à un optimum au niveau du bulbe. Vous avez une garantie sur la mise à fleur de 2-3 ans, puis après c'est quelque chose qui se dégénère, parce que les bulbes ne sont pas comme les tulipes ou les narcisses qu'on rencontre sur la haute Ajoie. C'est des bulbes qui ont été transformés par des gros croisements, et puis les descendants ne sont pas fidèles en fait aux pieds-mères, voilà.
Stéphanie, je vais vous laisser poser la question suivante. J'ai le téléphone qui sonne.
Un appel. Eh bien, en attendant, on va vous poser une question, Jean-Pierre, une question qu'on avait reçue la semaine dernière concernant des champignons blancs qui se trouvent sur les pieds des plantes vertes chez Marie de Basse-Cour. Des champignons blancs qui reviennent assez régulièrement et qu'elle ne sait pas s'ils sont nocifs, notamment pour la croissance de son chef-lera.
Bonne question. S'il se trouve sur le pied, effectivement, il y a souci, mais je pense que c'est plutôt un champignon qui se développe au niveau du collet de la plante. Ce qui se produit peut-être, c'est que au pied de la plante, de l'appart, là, il y a des résidus végétales, ça veut dire de feuilles ou d'écorces ou d'éléments comme ça qui sont au niveau du sol. Et puis, lors de leur décomposition, eh bien, dans le substrat qui est là, au niveau du terreau, eh bien, ça développe un champignon. C'est uniquement ça. Je pense pas que ça puisse poser problème à la plante, parce que si c'était un champignon qui était propre à la plante, il y en aurait sur l'ensemble du végétal, puis on serait sur des champignons de type oidium rouille. Donc je ne pense pas qu'elle risque quelque chose. Peut-être bien nettoyer le collet de la plante pour éviter d'avoir des résidus organiques, parce que ce champignon se développe très certainement sur des résidus de ce genre.
De retour dans les jardinières le samedi matin, pas de grasse mat, on se consacre au jardinage et on répond à toutes vos questions jusqu'à 8h. C'est Jean-Pierre Ribaud, le grand patron de l'entreprise Ribaud Paysage à Queuve, qui nous accompagne. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant.
Et on n'oublie pas que les jardinières, c'est votre émission. Si des questions vous viennent en tête au sujet de vos fleurs décoratives, de vos plantes d'intérieur ou de vos pelouses, n'hésitez pas à nous appeler au 0900 170 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous aurez ainsi l'occasion de discuter directement avec notre professionnel Jean-Pierre Ribaud. Et puis on lit aussi vos SMS. Pour les envoyer, il suffit d'indiquer le mot jardin, un espace, puis votre question. Et vous nous envoyez le tout au 939 et sur notre site. Vous trouverez aussi un formulaire à remplir sous l'onglet émission questions aux jardinières. Et justement, on parlait de téléphone, on en a eu deux pendant la pause musicale. Tout d'abord, Marie-Lou de Vandelincourt qui a des fraisiers. Ce sont des fraisiers normaux de printemps. Et elle se demandait que faut-il en faire maintenant pour qu'ils refleurissent et redonnent des fraises l'été prochain.
Oui, eh bien, bonjour Marie-Lou. En fait, votre massif de fraisiers, ce qui serait bien de faire encore à ce moment, si vous ne l'avez déjà pas fait, ce serait de supprimer tout ce qui est des stolons autour des pieds de que vous avez implantés à l'époque, ça veut dire les pieds-mères. Parce que tous les stolons qui se sont développés durant l'été affaiblissent le pied-mère, et puis automatiquement, s'il s'affaiblit, l'année prochaine, vous aurez une répercussion sur la mise à fleurs et la mise à fruits.
Donc les stolons, c'est ces petits spaghettis qui s'en vont des bacs de fraises, c'est ça?
C'est exactement ça. En fait, c'est des ramifications qui viennent au pied du fraisier et puis qui développe à son extrémité un pied de fraisier. Alors, si vous voulez faire une extension de votre plate-bande de fraise, eh bien, aucun problème. Hein, c'est que ça, c'est vraiment fidèle par rapport à la bulbe tout à l'heure qu'on a dit que ce n'était pas fidèle selon le pied, mais le fraisier, lui, si vous prenez des stolons de votre massif, vous aurez toujours les mêmes fraises. Ça, c'est pas un souci. Par contre, il faut pas trop en laisser tes stolons parce que sinon, ça affaiblit ce pied mère. Et puis, si ça a déjà été fait, alors ameublir un petit peu le sol et puis laisser le feuillage encore un mois et demi, parce qu'effectivement c'est toujours une question de transformation de matière nutritive pour le fraisier. Si vous enlevez trop vite vos feuilles, eh bien vous allez affaiblir votre pied. Donc laissez ces feuilles encore un mois et demi. À partir de là, vous pourrez les nettoyer, enlever tout ce qui est sec, tout ce qui est trop vieux, tout ce qui aurait été de production cet été. Puis au printemps, vous êtes garanti d'avoir une super production.
Merci Jean-Pierre, on a reçu encore des autres téléphones, on va passer au SMS.
On va prendre directement le téléphone parfait. En direct, comme ça Marianne, on va directement pouvoir lui poser, va directement
Bonne
poser
idée.
La question. C'est Marianne de Halle, bonjour Marianne.
Bonjour.
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 Bonjour Jean-Pierre, c'est une question à propos du romarin. Il y a 2 ans, j'avais acheté un romarin, et puis l'hiver, il a crevé, il était tout sec. Je me suis dit qu'il avait eu froid, c'est quand il avait fait froid. Et puis l'année d'après, j'en ai racheté un, je l'ai bâché pour l'hiver.
Oui.
Ce printemps, il était sec. Je me suis dit peut-être qu'il veut repousser depuis la racine, mais il ne pousse pas.
Non.
Puis j'en ai racheté un. Alors est-ce que ce n'est pas... C'était vivace, les romarins.
Alors ça l'est, effectivement, mais il fait trop froid chez nous, dans nos latitudes, pour qu'il passe l'hiver. Il gèle, effectivement. Puis en protection, j'en passe... Je vois pas ce que vous arrivez à mettre par-dessus pour arriver à le protéger, parce que...
Oui, j'avais mis comme une de ces robes de qu'on met sur les tomates, là, en espèce de toile verte.
Oui, mais c'est pas suffisant.
Je l'avais bien emballé, doublé.
Mais c'est pas suffisant. Il faudrait vraiment mettre... Après, le problème, si vous mettez trop d'ombrage sur le romarin durant l'hiver, il va être complètement jaune au printemps, puis je sais pas s'il va supporter le redémarrage. Vous voyez, c'est pas tout simple chez nous d'en avoir, effectivement.
Ah, d'accord.
Oui.
Ah, d'accord, alors, oui. Oui, parce que j'avais été encore au Tessin. Au Tessin, ils ont des haies de romarin.
Oui, mais c'est le Tessin.
Ah oui.
Ils ont aussi les palmiers.
Pas le même climat.
Ils ont des bananes.
Voilà. Ils ont des palmiers.
Non, sinon vous le laissez dans un pot et puis à l'hiver vous le mettez dans une véranda, dans un jardin froid. Mais là, faut surtout pas oublier de l'arroser parce qu'il va quand même nécessiter de l'humidité durant l'hiver. Mais il y a que ce moyen-là pour le garder pour le printemps prochain.
À leur entrée au jour, donc, où il fait jour, puis l'arroser à l'intérieur, sur une fenêtre, dans un atelier, dans un machin.
Oui, oui, mais leur entrée, je dirais, début décembre, quand les froids arrivent, c'est ça, quoi. Puis le laisser jusqu'à fin février, c'est un peu... Voilà, puis pas oublier l'arrosage, parce qu'en général, on se dit, bon, il n'y a pas de souci, on les oublie un peu. Au printemps, c'est vraiment du tabac, quoi.
Oui, oui. Alors, je pourrais éventuellement essayer encore celui-ci de le déplanter maintenant, cet automne, puis de le mettre dedans au mois de novembre.
Exactement, dans un pot avec une sous-tasse, puis de ne pas oublier de l'arroser.
D'accord, alors je vous remercie beaucoup.
Merci Marianne.
Bonne journée à vous.
Merci bien, bonne journée.
Excellente journée à vous et vous n'hésitez pas à nous appeler 0901 70 20 20. D'ailleurs, Mylène, il y a eu un autre appel, hein, une question. La personne n'a pas voulu poser sa question en direct, mais vous l'avez notée.
Ah bah oui, c'est Jean de Bonfol qui nous a parlé de ses dahlias. Il a une bordure de dahlias, il a eu peu de fleurs l'année dernière, quasiment aucune cette année. Bon, il a aussi pu voir que dans les alentours auprès de chez lui, c'était un peu pareil. Alors il se demandait, est-ce que c'est une mauvaise année? Est-ce que c'est dû à la chaleur? Ou est-ce que ces plantes sont fichues?
Eh bien non, bonjour Jean. En fait, le problème que vous avez rencontré sur votre massif de dahlia, c'est que vous avez une terre qui est trop pauvre. Elle est trop appauvrie et puis le rhizome n'arrive pas à faire des réserves suffisantes pour redémarrer l'année d'après. Alors, sur 3-4 ans, vous pourriez avoir vraiment des dahlias qui se détériorent. Maintenant, si vous mettez un super amendement de fumier ou d'engrais, l'engrais organique, c'est égal ce que vous lui mettez, il faut vraiment lui mettre... En fait, le dahlia, c'est une plante qui est très gourmande en éléments nutritifs. Plus elle a à manger, plus elle va vous donner des fleurs et des pousses. Et puis, plus elle a à manger, automatiquement, elle va emmagasiner dans le rhizome de la nourriture, on peut dire ça comme ça, pour redémarrer le printemps d'après. Pas oublier de les enlever à l'automne, ça, je pense bien que vous savez, parce que c'est une plante qui gèle. Hein. Les arracher, les mettre dans des caisses pour les replanter au printemps. Vous les hibernez en cave, alors ça, vous pouvez les mettre carrément dans la nuit, c'est pas un souci. Pas trop sec, pas trop chaud, parce que sinon, ça va se dessécher pour le printemps, ils auront de la peine à redémarrer. Mais votre problème, c'est uniquement de l'élément nutritif qui a manqué à votre culture.
Eh bien, merci Jean-Pierre pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes avec nous jusqu'à 8h. On a reçu un SMS de la part de Jérôme qui nous pose la question suivante. J'aimerais planter une haie chez moi d'une longueur d'environ 10 mètres et j'aimerais qu'elle ne soit pas seulement verte. J'aimerais éventuellement des fleurs, des fruits, des couleurs, etc. Et il nous remercie évidemment pour la réponse que vous allez lui donner.
C'est bien gentil. Il y a un milliard de solutions pour réaliser une haie comme il le souhaite. Il y a plusieurs conditions à savoir qu'on ne connaît pas. C'est quelle largeur elle peut être acceptée, cette haie, quelle hauteur il avait accepté. C'est vrai que sur 10 mètres, ça ne donne pas une grande possibilité pour faire un panachage d'enfer. Faut savoir que selon les arbustes, sur les plantes tous les 1 mètre, ça suffit. Donc ça fait que 9 ou 10 maxi. S'il veut mettre des petits fruits dedans, alors ça peut encore se faire. Mais si c'est des résinées, des groseilles, ce n'est pas des arbustes qui viennent très haut. Donc il y a la question de savoir à quelle hauteur il souhaite avoir cette haie qui se développe. Il y a un milliard de solutions, vraiment. Il faudrait voir l'emplacement, le souhait de cette haie pour le renseigner vraiment optimum.
Les jardinières.
Et puis nous avons eu un téléphone de André de Boudry qui était un peu embêté parce que son fils s'est amusé dans le jardin et il a arraché il a arraché la mousse du gazon. Alors, elle se posait la question parce qu'elle avait peur des représailles de ses voisins et des autres gens de la maison. Est-ce que c'est grave d'avoir arraché cette mousse dans le gazon ?
Pas du tout. Bonjour André. Non, en fait, je pense que votre fils est un futur pro du jardinage, c'est évident.
Vous voyez, André.
Cette mousse, elle peut s'enlever, c'est pas un souci. Alors, si vous enlevez vraiment une grosse zone de mousse dans votre pelouse, et puis que vous ne remettez pas de semences en place, qu'est-ce qui va se passer ? Vous aurez un peu de la mauvaise herbe qui va arriver ou de la mousse qui va se redévelopper. Cette mousse, elle s'est développée parce que vous avez une surface qui est plutôt pauvre au niveau des éléments nutritifs ou que le gazon a été brûlé parce qu'il était justement sur une surface un petit peu sèche, aride, et puis il n'a pas passé l'été. En tous les cas, cette mousse, soit elle va revenir, soit de la mauvaise herbe va remplacer, soit du gazon va repousser. Mais il n'y a aucun problème par rapport à ça. Il y a des fois, on aime aussi bien quand on fait des sursemis, quand le gazon il est clair. Comme on l'a dit tout à l'heure avec Nelly Akeuve, le fait de semer une densité, peut-être une fois et demie la dose de semence, ça veut dire plutôt que 30 grammes, vous en mettez 40-45 grammes au mètre carré. Et puis que vous passez un scarificateur, cette mousse que vous voulez arracher, vous la laissez au sol, vous la ramassez en tout cas pas, et puis c'est ça qui va faire de longs brins sur la semence et puis qui va vous permettre une levée de semis intéressante.
Merci Jean-Pierre. Un SMS à présent qu'on a reçu il y a quelques minutes. C'est un auditeur qui nous demande si les fleurs gueules de loup peuvent passer l'hiver à l'extérieur ou ce qui vaut les rentrer.
Alors je ne crois pas que la gueule de loup soit une vivace, c'est quelque chose qui gèle chez nous, qui ne passe pas. Peut-être sous d'autres latitudes, c'est vrai qu'il a tendance à se développer un peu du bois sur le démarrage et puis qui peut passer, mais chez nous il ne peut pas passer l'hiver.
Encore un autre SMS, c'est Robert qui nous pose la question. J'aimerais savoir ce que je peux encore planter ou semer maintenant comme légumes qui supportent le froid. J'ai semé des panais et je vais semer la doucette aussi, ça on en a parlé tout à l'heure. Quoi d'autre possible ? Merci d'avance, meilleure salutation, agréable journée Robert. Voilà. Il est de Courant de l'Ain.
Impeccable, oui. Eh bien Robert, en fait, tout ce que vous trouverez comme plantons dans les grandes surfaces actuellement sont des légumes que vous pourrez mettre en place pour l'arrière-automne et le début d'hiver. Après, il y a des choses qu'il faudra peut-être un peu couvrir si vous pouvez espérer les conserver sur le mois de janvier-février, telles dans les salades, peintures, ces choses-là. Vous les mettez en cave avec un bout de racine, comme ça vous aurez une super salade qui va venir jaune et tendre durant l'hiver. Mais il y a encore passablement de choses qui se mettent en place. Jetez un coup d'œil dans tout ce qui est des grandes surfaces et puis vous voulez voir qu'il y a encore de quoi jardiner.
Et même que l'hiver. Enfin, en même temps, c'est vrai que quand on voit le temps qu'il fait, on peut se dire l'été continue. Mais
ça motive. C'est
ça motive, effectivement. On a reçu encore un autre
un
SMS.
Nous avons Marie-Claire de Courtetel en téléphone. Excusez-moi, Stéphanie.
Oui,
téléphone.
Vous avez bien
Je
fait.
Vous coupe. Donc, Marie-Claire, bonjour.
Oui, bonjour.
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 Je vous téléphone concernant un damassinier qu'on a, qui était très grand, qui nous a produit 400 kilos de damassine.
Oh, wow.
Et il y a deux mois, comme ça, il y a une grande branche qui s'est cassée, oui, depuis l'embranchement. Et puis, on l'a laissé pendre parce qu'elle était encore un petit peu attachée. On a pu récolter les damassines. Mais maintenant, on se pose la question, on l'a scié et il y a un grand trou dedans.
Oui.
Et puis, je pense qu'il y avait un peu des bestioles ou je ne sais pas quoi. Est-ce que, mon mari l'a vidé, est-ce qu'on peut mettre, combler le trou avec du mastic ?
Oui, alors
c'est... de jardinier.
Oui, c'est toujours la bonne question. Ce qu'il aurait fallu éviter pour éviter les dégâts futurs, c'était effectivement que cette branche ne casse, parce que une grosse plaie au démarrage des autres charpentières va affaiblir le damassinier. Que faire sur une grosse plaie? Vous pouvez essayer de mettre un peu de mastic, mais la situation de ce mastic, dans 2 ans, il va se décoller, et puis vous aurez de toute façon des entrées d'humidité, et puis ça va de toute façon détériorer un peu le tronc, le démarrage des autres charpentières. Alors quoi faire? Projeter d'en rajouter un dans le verger fruitier si d'ici une année ou deux vous avez d'autres pertes, parce que ça veut vraiment affaiblir le démarrage. Le damascine, c'est qu'il a un défaut dans sa conception. Les charpentières, elles démarrent souvent toutes au même nœud. Et puis le
oui,
fait.
C'est ça, exactement.
Mais oui. Alors soit vous avez des branches qui se dessèchent parce qu'elles sont étouffées à l'intérieur de ce nœud, soit vous avez une casse comme ça, puis ça affaiblit le reste du végétal. Donc si vous voulez vraiment pérenniser votre production de damascine dans le temps, mettez-en un jeûne, c'est le mieux. Faites attention au démarrage d'avoir des charpentières qui s'étalent sur les 20-30 premiers centimètres, mais pas sur un noyau central, pour éviter ces dégâts futurs dans le temps. Alors après, ces dégâts futurs, c'est dans les 70-80 ans sur le jeûne que vous planterez, mais c'est un futur qu'il faut cultiver déjà maintenant.
D'accord, mais il ne faut pas le greffer, il faut en mettre un à côté.
Ah oui, à vous plus.
C'est une greffe qu'il faut greffer.
Non. Alors vous pourriez greffer le damasciné que vous avez, vous prendriez des greffes de celui-là pour regreffer sur un porte-greffe à côté. Ça, c'est faisable pour sauvegarder les codes types que vous avez. Mais où en planter un nouveau, c'est égal.
D'accord. Maintenant, est-ce qu'il faut le tailler? Parce qu'il est très, très grand encore. Hein. On va essayer quand même de combler. Oui. Mais vous pensez qu'on peut essayer quand même?
Alors, oui. Alors, il faudrait le voir. Hein. J'entends aussi, c'est un thé damasciné qui n'a pas été touché pendant 20 ou 30 ans, puis qui s'est étiolé sur une longueur de 4-5 mètres. Là, ça va être difficile de les tailler parce qu'on a de la peine à avoir des rajeunissements naturels dessus. Maintenant, si c'est un damasciné qui a été planté il y a une dizaine d'années et puis qui s'est vraiment très allongé, et puis on sait que le fruit, il est toujours sur les extrémités des branches, là, ça vaudrait la peine de le tailler. Enlever en tout cas, je dirais, le 1/3 de la couronne, mais prenez ça à la pincette parce que je ne le vois pas comme il est votre damascinier, mais je pense que si c'est une plantation d'une dizaine d'années, 1/3 vous arrivez à le faire, c'est ce qui va pérenniser le végétal dans le temps, parce que si vous l'aviez déjà fait l'année d'avant, avant cette casse que vous avez eue là, vous n'auriez pas eu cette casse, voyez.
Oui. Mais de toute façon, il a 25-30 ans. Hein.
Oui.
Alors, mais il est tellement grand que ça commence à gêner les voisins aussi. Alors, je pense que... Est-ce qu'on peut essayer quand même de tailler?
Alors oui, vous pouvez essayer, mais vous pouvez pas revenir dans des éléments qui se sont totalement dégarnis dans le temps, parce que là, il n'y a rien qui va redémarrer. Il faut tailler pour rester quand même de la ramification dense, fruitière, vous voyez ce que je veux dire. Il faut ou dédoubler pour alléger le poids sur des longueurs pour éviter les casses futures.
D'accord.
Tout est clair pour vous? Vous aviez encore une question?
Je voulais juste demander, les pruniers, il est aussi très grand le nôtre, est-ce que ça se taille?
Oui, bien sûr, ça c'est évident. Sinon d'accord. Vous aurez de la casse future avec des charges fruitières ou des charges de neige humide.
D'accord. Alors, je vous remercie.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir appelé.
Merci Marie-Claire.
Bonne journée, au revoir madame.
Bonne journée.
Parce qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de questions ce matin, on va poser une question rhubarbe pour vous Jean-Pierre. Est-ce qu'on peut encore la récolter et la consommer maintenant?
Bonne question. Si ce pied de rhubarbe a déjà été récolté 1, 2 ou 3 fois, automatiquement, il y a des nouvelles branches qui se sont développées. Elle est jeune, donc tendre. Si c'est un plant de rhubarbe qui n'a pas été récolté du tout depuis le début de l'année, là, c'est quelque chose qui va être difficilement consommable parce qu'effectivement, très dur. Voilà. Après, juste ne pas oublier d'enlever tout ce qui est d'ombelle florale quand elle se développe, parce que c'est aussi quelque chose qui va tirer en bas le pied de votre rhubarbe, puis qui va mettre à contribution la production de l'année d'après.
Et on a simplement reçu une petite précision de Jérôme qui nous posait avant la question par rapport à la haie, souvenez-vous. Il nous dit que cette haie devrait mesurer plus de 2 mètres car elle servirait exclusivement à cacher la vue. Et si elle peut être jolie, ce serait encore mieux.
Ah, alors pour une haie de 2 mètres, il peut mettre tout ce qui est fruitier, palmette ou fuseau ou quelque chose comme ça. Il peut, les petits fruits, il n'y a pas grand-chose qui vient de cette hauteur-là. Dans les fleurs, on va se diriger sur des deutzias, sur des philadelphus, sur des lilas, des laburnums. Oui, il y a un milliard de possibilités quand même, effectivement.
Et ben voilà, il est bientôt 8 heures. Hein. Ça file quand on a plein de questions comme ça. L'heure pour les jardinières de remballer les bloc-notes et puis de filer directement au jardin pour appliquer tous les bons conseils reçus. Je vous remercie. On vous remercie, Jean-Pierre Ribaud, d'avoir pris du temps pour répondre aux nombreuses questions des auditeurs ce matin. Belle journée à vous. À très bientôt.
C'est gentil, c'est vrai que ça va trop vite. J'aurai l'ennui de nouveau.
Ça file. On vous retrouvera bientôt.
C'est gentil, puis les jardinières, elles reviennent la semaine prochaine pour répondre à toutes vos questions. questions. Et puis on vous rappelle, hein, pas la peine d'attendre jusqu'à samedi prochain pour les poser. Vous pouvez le faire dès maintenant par SMS. On rappelle un jardin, un espace. Votre question avec un maximum de détails. Vous envoyez tout ça au 939 ou alors par formulaire présent sur nos sites. Vos questions, elles seront traitées samedi prochain dès 7h. On vous fait des becs et on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Gros bisous.
7h, 8h.